Radio Canu, la plus rebelle des radios. Caesar, hear me, the merchant of Venice, couldn't see your CD. As for me, all's well that ends well. Your boy is like Macbeth, you're going to hell. Measure for measure, I am the best here. Your merry wives, the winds are not too near. I don't know about tomorrow, I know all's in Athens. I come back like Hamlet, you pay for your...
Bonsoir.
Alors, bonne année, très chères auditrices et auditeurs. Nous sommes le mercredi 4 janvier 2017 et c'est l'heure du Canu Info.
Alors, ce soir, de quoi va-t-on parler?
Alors, un peu d'actu en bref.
Ensuite, on ira faire un tour en Algérie où des émeutes contre la loi de finances ont éclaté.
Et suite du mouvement des femmes de ménage de la Part-Dieu.
Ensuite, on ira à Paris avec des propos racistes.
Et dans la rubrique « Il faut que ça sache », il y a des révoltes de réfugiés dans un camp en Italie du Nord, près de la ville de Cona.
Ensuite, on va parler d'élite solidarité.
Et des familles sans logement à Lyon.
Et on finira cette rubrique « Il faut que ça sache » avec le projet Eurodac. La chasse pour les sans-papiers va être ouverte. Alors, nous allons commencer cette actu en bref par la phrase du jour qui a été donnée par Marmor. Marmor étant un voyant lyonnais invité pour une interview sur le site de Lyon Mag, qui n'avait visiblement que ça à foutre ce jour-là. Et il a déclaré « La voyance n'est pas une source exacte ».
Waouh !
C'est beau, hein ? Bon, il dit ça parce qu'il s'était planté sur une prévision. Il avait prévu que Hollande et Fillon seraient au second tour de l'élection en 2017. Voilà. Sujet beaucoup plus sérieux et bien moins rigolo. Un jeune sergent franco-israélien de 20 ans a été reconnu coupable d'homicide par le tribunal militaire israélien. Ce jeune soldat était jugé pour avoir tiré une balle dans la tête d'un Palestinien, Abdel Fattah el-Sarif. À Hébron en Cisjordanie, qui sont des territoires palestiniens occupés par l'armée israélienne, on le rappelle. Abdel Fattah avait été blessé par un premier tir et gisait au sol quand le soldat israélien lui a tiré dessus dans la tête, alors que clairement il ne représentait plus aucune menace. C'est ce qui lui était reproché durant ce procès. Le tribunal a dans un premier temps diminué le chef d'inculpation, qui au début il était inculpé de meurtre, ce qui dans ce tribunal-là, il est bien au-dessus de homicide. Et voilà, donc il l'a requalifié en homicide, du coup il risque moins. Il a toutefois été reconnu coupable ce mercredi, il risque jusqu'à 20 ans de prison. Mais les trois juges vont prendre plusieurs semaines avant de se prononcer sur le niveau de la peine. De son côté, l'oncle du Palestinien assassiné a déclaré, lui, qu'il ne se faisait pas d'illusions sur la peine prononcée.
Et on va parler un peu plus longuement de l'Algérie où actuellement il y a des émeutes contre une loi mise en place, la loi de finances. Donc ces protestations-là ont commencé ce lundi 2 janvier dans quelques villes de Kabylie. Et c'est des protestations contre la loi de finances 2017 et la hausse des prix. Et ces manifs, protestations, etc. se sont étendues vers d'autres villes jusqu'à également toucher la banlieue de la capitale qui n'est autre qu'Alger. Et donc très vite, les protestations ont viré aussi aux émeutes. Et selon les autorités algériennes, tout était sous leur contrôle. Ce qui semble être faux au vu des nombreuses vidéos qui parcourent le net, au vu de beaucoup de choses qui sont dites, ce qu'on peut lire dans les médias. Donc pour en revenir, à l'origine, c'est des appels à observer 5 jours de grève générale en Algérie qui ont été lancés le 29 décembre et ont été très largement diffusés sur les réseaux sociaux. Et cette loi finance, on y reviendra tout à l'heure, mais prévoit notamment une hausse de la TVA de 17 à 19%. Et elle est rentrée en vigueur donc dimanche 1er janvier, donnant lieu à une grève ainsi qu'à des manifestations. Donc, pourquoi voilà, c'est que le mardi également de janvier, la zone de grève s'est étendue vers d'autres villes au centre du pays, et notamment à Béjaïa, Bouira, les commerçants ont fermé leurs magasins en signe de soutien au mouvement. Et il y a eu également eu des émeutes, des bus de transport en commun, un fourgon de police, même plusieurs, je crois, d'autres propriétés publiques et privées ont été brûlées. Des barrages sur les routes ont amené à de violents affrontements avec les flics et des édifices publics et privés ont été saccagés, pillés ou incendiés. Donc, ce qui fait que, quand même, ça bouge pas mal, c'est pour ça qu'on en parle, quoi. Et donc, le ministre de l'Intérieur algérien, Nourdine Bédoué, a mis en garde tous ceux qui veulent déstabiliser le pays. Mais il a également déclaré que la situation est maîtrisée et que le gouvernement suit de très près l'évolution de la situation. Donc, voilà, on peut toujours en rigoler de ce genre de choses, ou dire ne vous inquiétez pas, tout est maîtrisé, tu parles. Et donc, pour en revenir plus précisément sur la ville de Béjaïa, la police a interpellé une centaine de personnes, et plutôt des personnes jeunes. Et donc, cette ville de Béjaïa, c'est une ville du littoral kabyle qui est à 180 km à l'est d'Alger. Le mot d'ordre donc de grève générale, et aussi ce qu'il faut préciser sur ce mot d'ordre, c'est que c'est sans relais politique ni syndical. Ce qui est étonnant là, c'est que l'appel aux 5 jours de grève, c'est les mouvements sociaux, quoi. Pardon, pas les
réseaux sociaux.
Oui, voilà, les réseaux sociaux.
Mais qui donnent les mouvements sociaux.
Voilà, exactement. Et donc, sur la ville de Béjaïa, il y a une marche partie des quartiers populaires d'Iguil, Ouazoug et de la cité Remala, qui était partie, et du coup qui est partie un peu en émeute aux abords du siège de la Wilaya, qui est l'équivalent de la préfecture. Et donc, lorsque les forces de sécurité ont tenté de disperser les jeunes par des jets de grenades lacrymogènes. Du coup, c'est quand même, il faut toujours rappeler la police qui a commencé. Et après, ces affrontements, ils ont perduré jusque tard dans la soirée. Et notamment, il y a l'agence BNP Paribas, le showroom d'appareils électroménagers Condor, le dépôt de la Société Nationale des Tabacs et Allumettes, et les locaux de la direction de l'éducation qui ont été pris pour cible par les émeutiers. Un bus et un camion de la police anti-émeute ont été incendiés. Donc tout ça, je le rappelle, c'est dans la ville de Béjaïa. Pourquoi je rentre un peu dans les détails, c'est que souvent on dit que les gens font de la violence gratuite. Quand même, tout ce qu'on a nommé, c'est quand même très ciblé. Et justement, c'est pas n'importe quoi qui est ciblé. Donc, d'autres villes de la Wilaya étaient le théâtre de heurts, avec des commissariats caillassés à Tichy, Sidi Aïch et Tazmalt, et au total une centaine. Ah voilà, ça je l'ai déjà dit, qu'il y a une centaine de personnes qui ont été interpellées. Et bien sûr, dès lundi aussi, les sections locales de la centrale syndicale UGTA ont multiplié les appels au calme pour dire de redescendre. Après. C'est à tout le monde de voir ce qu'elle veut faire. Mais pourquoi tout ça? Alors, pour rentrer dans les détails de cette loi de finances 2017, elle prévoit de sévères coupes dans les dépenses publiques, les taxes plus lourdes et les hausses des prix des carburants, de l'électricité, des produits de première nécessité, ce qui est quand même énorme, là, tout ce que j'ai cité, parce que ça attaque notamment beaucoup les personnes qui n'ont pas beaucoup d'argent, donc des personnes pauvres. Et en d'autres termes, c'est une loi d'austérité. Donc avec la chute des cours des hydrocarbures, l'économie algérienne est, elle, très dépendante du gaz et du pétrole, connaît depuis 2 ans un choc violent et durable. Et la conséquence donc, du repli de 30% des recettes d'hydrocarbures, les ressources du fonds de régulation des recettes budgétaires alimenté par l'épargne pétrolière ont fondu, passant de 25,6% du PIB en 2014 à 12,3% en 2016. Et les scénarios avec une prévision de croissance de 2,9% en 2017 ne sont pas optimistes, malgré l'accord de réduction de la production conclu cet automne par les pays membres de l'OPEP. Donc voilà, c'est grave la merde. Et en fait, en suivant les recommandations du FMI pour réduire son déficit budgétaire, donc ce qui est de 16,4% du PIB, l'Algérie, faute de réformer son économie, entre à son tour dans le cercle vicieux de l'austérité. Donc voilà pourquoi toutes ces émeutes en Algérie en ce début d'année 2017.
Et on continue dans les mouvements sociaux, mais cette fois-ci on revient du côté de Lyon, et plus précisément à la Part-Dieu. Ça s'était passé, on en avait parlé, le 22 décembre, il y a eu un rassemblement au centre commercial pour soutenir les femmes de ménage du centre qui sont en lutte actuellement. Et depuis plusieurs mois, elles se battent pour améliorer leurs conditions de travail. Ce 22 décembre, du coup, juste avant les fêtes, il y a eu tout de même une quarantaine de personnes qui ont répondu présent. Ce qui est vraiment pas mal, vu la période, c'était pas gagné. Et on note l'honnêteté des organisateurs et organisatrices qui auraient pu compter à peu près tous les gens qui étaient au centre commercial ce jour-là. Des négociations ont eu lieu en même temps entre la direction et les salariés, de manière simultanée avec le rassemblement. Et des négociations avec à la clé de belles victoires, puisque la plupart de leurs revendications ont été acceptées. Alors notamment la requalification des salariés qui leur fait augmenter leur salaire de 500 euros par an, la refection de leur local ainsi que l'achat d'une machine à laver. Et oui, jusqu'à présent, elles étaient obligées de laver les serpillières à la main. Elles auront désormais deux tenues de travail prises en charge par la société et leurs fournitures seront également améliorées. Alors par exemple, il y a des oreillettes qu'elles sont obligées de porter toute la journée, hein, on leur donne des consignes d'aller à tel endroit, d'aller laver. Enfin, vous voyez. Jusqu'à présent, c'était des oreillettes standards, ce qui fait que, je sais pas si vous avez déjà porté des oreillettes pour écouter de la musique pendant longtemps. C'est très désagréable assez vite. Donc voilà, elles, c'était pendant toute leur journée de boulot qu'elles devaient faire ça, c'était obligatoire. Elles ont obtenu que ces oreillettes soient moulées à leur oreille, ce qui les rendra donc plus confortables. Ça peut paraître tout bête, mais je pense que c'est un gain de confort considérable. Elles auront également plus de gants et tout un tas d'autres trucs qui va améliorer petitement, mais quand même.
Comme on dit, le minimum syndical.
Exactement, c'est vraiment le strict minimum syndical, ouais, c'est clair. Voilà. Et c'est vrai que quand on entend cette liste, hein, on est quand même bien triste de se dire qu'il soit nécessaire de se battre pour obtenir de ceux qui ont 100 fois plus pour obtenir ce genre de choses. Ce qui est assez chouette, c'est que ça donne un peu un espèce de truc concret sur ce que peut donner une action collective. Espérons que ça donne des idées à d'autres. En attendant, rendez-vous début février pour les nouvelles fiches de paye qui arriveront, pour voir si ces promesses ont bien été tenues, on l'espère, et en tout cas, belle victoire à vous si vous nous écoutez, et chouette mouvement.
Et hier, dans un tribunal parisien, étaient jugés des propos racistes. Donc c'était hier, mardi 3 janvier, 4 supporters anglais ont été jugés coupables de violences à caractère raciste en réunion dans l'espace public et ont été condamnés à de la prison avec sursis. Donc c'était les faits remontent au match PSG-Chelsea. Ils avaient empêché une personne noire de monter dans la rame du métro dans laquelle il se trouvait en 2015. Avant d'entonner un chant raciste. Donc des peines allant de 6 à 12 mois avec sursis assorties de dommages et intérêts ont été mises en place. Et seuls deux des quatre prévenus étaient présents à l'audience. Et bah, en tout cas, sur cette audience, comment dire, c'est que le racisme ordinaire, malgré toutes les raisons invoquées devant le juge pour atténuer sa portée, a été condamné hier. Voilà, ils ont des thunes à payer, ils ont du sursis. Je sais pas, moi j'ai pas envie de féliciter la justice. En tout cas, ce qui est important là-dedans, c'est que des propos et des actes racistes ont été reconnus comme tels.
Écoutez, à tout moment, ils peuvent venir te prendre pour les moments qui est à leur disposition.
Il est sans papier, c'est pour cela qu'on traite comme ça. Il est sans papier.
Comment l'État a tordu les lois pour s'acharner à expulser.
J'arrive pas à comprendre que je sois vraiment dans un déni de la personne.
Je vais me marier pour les papiers parce que je comprends pas les frontières. Si quelqu'un pouvait m'expliquer pourquoi on a dessiné des lignes par terre.
Une grosse rubrique, il faut que ça se sache sur ce Canu Info du mercredi 4 janvier sur Radio Canu. Plusieurs titres et notamment pour le premier, c'est cette révolte de réfugiés dans un camp en Italie du Nord, près de la ville de Cona. C'est donc dans une structure d'hébergement en riposte à l'aide médicale tardive que... sur une personne. Donc 25 employés ont été retenus jusqu'à 2h dans la nuit de lundi à mardi. Donc c'est ces pensionnaires qui protestaient après le décès d'une femme de 25 ans, malade depuis des jours, et seulement traitée donc cette nuit-là. Donc c'est environ 1400 habitants du camp qui ont pris en otage des assistants sociaux, dont deux médecins et une infirmière. Et ils avaient raison d'être en colère parce qu'ils protestaient contre les mauvaises conditions de vie dans cette ancienne base de lancement de missiles qui héberge donc aujourd'hui 1500 personnes. Et surtout, ils s'indignaient de la lenteur de la prise en charge de Sandrine Bakayoko, une Ivoirienne de 25 ans, qui est décédée donc dans la nuit de lundi à mardi. La jeune femme a perdu connaissance en attendant une ambulance qui a pris 6 heures pour arriver sur les lieux. S'il n'y a pas un traitement différent entre des personnes migrantes et des Italiens, vous n'allez pas me dire. Enfin, voilà, bref. Donc, elle a décédé à l'hôpital et donc, sa mort a provoqué de vives polémiques vraiment en Italie. Pas, du coup, il y a eu cette protestation dans le centre. De tous les politiques italiens sont mis à parler là, en début d'année là, de l'immigration. Donc le nouveau gouvernement de Paolo Gentiloni, pour préciser, il est arrivé après la démission récente là, de Matteo Renzi, début décembre, venait d'annoncer un durcissement de la politique d'accueil en Italie. Donc le nouveau ministre de l'Intérieur, Marco Minniti, et le préfet Franco Gabrielli ont publié samedi une note dans laquelle ils annoncent des mesures plus sévères sur l'immigration. Ils souhaitent augmenter le nombre d'un autre type de structure, les centres d'identification et d'expulsion, donc les CIE. Ils passeraient de 4 aujourd'hui en Italie à 20. Tu sais, c'est pas le double, quoi. C'est 5 fois plus.
Alors que on rappelle quand même que il me semble que si ce nombre de 4 est si peut surprendre et était aussi faible, c'est parce que les migrants ont pendant une longue période, il y a de ça peut-être quelques années, je sais plus, 1 ou 2 ans, un long travail de destruction en enflammant un à un tous les centres, et pendant une grosse période tous les centres de rétention d'Italie, du coup ces CIE là, qui sont l'équivalent des centres de rétention en France, ont pris feu et ont été détruits soit partiellement, soit totalement, avec des travaux qui ont dû qui ont coûté des millions et des millions au gouvernement. Du coup, voilà, il y a cette entreprise rondement menée qui a été faite. Et voilà.
Et du coup, ce nouveau gouvernement est quand même poussé au cul par l'Union européenne, hein, parce que en fait, c'est le gouvernement Renzi d'avant. Lui s'était toujours opposé à cette demande qui est formulée par l'Union européenne d'augmenter le nombre de ces centres en Italie, décrits de fait comme de véritables prisons. Mais en attendant, et ben voilà, a priori, ils vont être augmentés en 2017. C'est pas une bonne chose. Et quelques jours avant donc le décès de la jeune ivoirienne, le mouvement 5 étoiles. Donc c'est un parti eurosceptique fondé par l'humoriste Beppe Grillo, avait déclaré vouloir l'expulsion de tous les immigrés irréguliers et sans droit d'asile. Donc voilà pour les petites conneries qui se disent en Italie.
Mouvement 5 étoiles qui avait avancé, masqué il y a quelques temps, là où au tout début où il était apparu, on pensait que c'était un espèce de mouvement un peu d'extrême gauche. En fait, il s'avérait que c'était un mouvement d'extrême droite, hein, avec ce genre de propos. Maintenant, ça se confirme vraiment.
Et oui, et comme donc ces centres d'identification et d'expulsion sont comme des centres de rétention, autant dire que c'est des c'est décrit par les opposants, du coup nous et plein d'autres gens, comme de fait c'est des centres qui privent des libertés fondamentales les individus qui y rentrent. Bref, après l'Italie, dès 2014, pour donner un peu des chiffres, il y a eu 500 000 migrants qui sont arrivés dès 2014 en Italie. 15 000 ont été renvoyés, quand même. Et ah oui, et c'est ça, pour finir sur une note toujours aussi sombre, après que la police italienne a tué le terroriste de l'attentat de Berlin en décembre, le gouvernement a durci sa position. Le Tunisien, donc Anis Amri, était arrivé en Sicile et avait pu librement circuler sur le territoire. Donc, une raison encore de plus pour interdire des migrants de venir en Europe. Donc, que de chouettes présages pour cette Europe forteresse en 2017.
Et alors, juste pour préciser, le truc que tu disais, là où pour l'instant le gouvernement italien avait refusé de construire de nouveaux centres, alors je pense qu'il ne faut pas se méprendre sur le fait que, enfin, c'est pas un acte de générosité de sa part, c'est plus un truc où plus il construit de centres, plus il y aura de gens dans ces centres. Une fois qu'un migrant est dans un centre, c'est à l'État de le gérer, alors que la politique de l'Italie, s'ils ne les ont pas construits, c'est pas par humanisme, c'est bien parce qu'ils ont une espèce de volonté où, comme l'Italie c'est une des portes d'entrée, enfin les migrants, il y en a plein qui mettent leur premier pas dans ce pays-là, et ben c'est de laisser passer les migrants pour qu'ils puissent aller dans le pays qui vise, et pas qu'ils les retiennent dans leur pays. Et encore une fois, c'est pas par idéologie, ou en tout cas par, je sais pas comment dire là, c'est vraiment pour pas avoir à gérer un problème, parce que de toute façon on voit bien comment ils gèrent le problème dans les CIE actuels en Italie, c'est catastrophique, quoi.
Mais t'as tout à fait raison de préciser ça, c'était une erreur, c'était une mauvaise formulation de ma part, je pense, et aussi surtout que c'est la même pression qu'il y a entre la France et l'Angleterre qui se reporte entre plein de pays et l'Italie, parce que tout le monde chasse les migrants de son sol pour les ramener en Italie ou les expulser dans leur pays. C'est vraiment la patate chaude, quoi.
C'est ça. Et après, il y a des pays comme la Turquie qui, eux, sont pas encore dans l'Europe, mais qui négocient des trucs en contrepartie d'accepter, de filtrer, de retenir plutôt les migrants en contrepartie de gros chèques de l'Union Européenne contre ça. On se fait une petite pause musicale et on retrouve la chronique, il faut que ça se lâche juste après.
On va dépasser les zombies.
venez d'écouter Zone Infinie avec la chanson eh bien Zone Infinie, voilà.
Eh oui, facile.
Eh oui.
Et alors pour continuer cette rubrique, il faut que ça se sache du journal de Radio Canu. On va parler de délit de solidarité, puisqu'aujourd'hui a débuté à Nice le procès de Cédric Héroux, qui est poursuivi pour avoir aidé des personnes migrantes. Et voilà, environ donc 300 personnes quand même se sont rassemblées devant le tribunal correctionnel de Nice en début d'après-midi, donc pour le soutenir. Et Cédric Héroux, c'est un agriculteur, voilà, et lui, il est poursuivi pour avoir aidé des migrants dans la vallée de la Roya. Donc il est entré à 15h dans le palais de justice et il a dit « Je vais devoir me justifier de mes actions. Je vais le faire au nom des gens qui sont passés chez moi et au nom des gens passés par la vallée de la Roya. » Voilà ce qu'il a déclaré. En tout cas, ça fait aussi plaisir, on va dire, qu'une personne assume des actes juste de solidarité et de dire de ne pas voir le problème légal que de donner un peu à manger, à boire, à dormir à des personnes. Bref, la vallée de la Roya, ben, c'est une zone montagneuse française entre l'Italie et la France. Et c'est une zone dans laquelle l'État a annoncé des poursuites contre certains habitants pour aide à l'entrée au séjour irrégulier. Donc comme c'est entre l'Italie et la France, il y a dans des villages des migrants de plein d'endroits, d'Érythrée, du Soudan, du Tchad et d'autres pays qui tentent donc de franchir la frontière, c'est pas fou, c'est normal, c'est une zone frontalière comme n'importe quelle autre. Et cette frontière est officiellement fermée depuis 2015. Et donc, des habitantes apportent leur aide à des personnes épuisées par leur très long périple. Et du coup, voilà, c'est des petits coups de pouce, quoi. C'est de la nourriture, des vêtements. Ça peut être des cours de français, des soins médicaux, de l'hébergement, voire du covoiturage. C'est juste des villageois et villageoises solidaires qui sont jeunes et vieux, qui sont de toute profession, peut-être pas flics, mais peut-être. On sait pas. Bref, plein de gens qui font cette solidarité. Et puis c'est à suivre ce procès là de Cédric Héroux. Faudra voir la semaine prochaine comment il a été, qu'est-ce qu'ils ont. Est-ce qu'il a été jugé coupable ? Ou on espère qu'il n'aura aucune peine ?
En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y avait un énorme rassemblement devant le tribunal et que, ce qu'on peut lire dans les médias, la salle était comble. Ils ont fait, comme d'habitude, là, ce genre de truc, ils ont refilé une toute petite salle. Voilà, pour pas qu'il y ait trop de soutien qui puisse rentrer, mais ça a pas démotivé les gens, et plutôt les gens se sont tenus devant et ont bien attendu bruyamment la tenue du procès.
Il faut que ça se sache.
Et à Lyon, il va y avoir un rassemblement, noté dans vos petits agendas, c'est demain, le 5 janvier, devant les locaux de l'OFII, le centre de rétention qui ne dit pas son nom. Donc c'est le collectif Jamais Sans Toi qui réunit des enseignants, des parents d'élèves et des habitants et des riverains d'école, qui appelle donc ce jeudi 5 janvier à 18h et où au 22 rue de l'Effort. Et c'est E2FORT. Donc Lyon 7, métro de Bourg. Donc devant les locaux de l'Office française de l'immigration et de l'intégration. Donc le 22 rue de l'Effort. C'est pas évident à suivre. Hein. À l'oral. Et ces locaux sont en effet en train de devenir un centre de rétention qui ne dit pas. Absolument pas son nom. Donc de nombreuses mobilisations dans les écoles et collèges de l'agglomération ont permis à environ 50 élèves et leurs familles d'être mis à l'abri par les services de la préfecture, donc depuis ce début d'année scolaire. Mais ce collectif vient d'apprendre que certaines familles subissent un chantage de la part des services de la préfecture. Donc, c'est une mise à l'abri temporaire contre une signature pour un retour au pays. En cas de refus, c'est un retour à la rue. Donc, tu as le droit d'être hébergé si tu promets que tu vas te barrer du pays. C'est ça, c'est du chantage. Et c'est notamment donc le cas des familles hébergées dans ces locaux de l'OFI, situés donc au 22 rue de l'Effort. Et dans ces locaux, des familles ont même été assignées à résidence, avec obligation de pointer au commissariat 2 fois par semaine. Donc, c'est comme si elles avaient commis un délit. Et leur délit, c'est de ne pas avoir de toit et de ne pas être française. C'est super. Donc, le collectif Jamais Sans Toi demande à nouveau au préfet que la loi soit appliquée et rappelle que l'hébergement est un droit inconditionnel pour tous et que donc la préfecture mène un chantage abject, que chaque enfant doit pouvoir suivre une scolarité digne, profitable et sans vivre le traumatisme d'une vie dehors ou d'une reconduite forcée dans un pays qu'il ne connaît souvent pas. Donc le collectif Jamais Sans Toi tient également à rappeler et dénoncer que plus de 100 élèves de l'agglomération lyonnaise et leurs familles n'ont toujours pas été hébergés depuis septembre 2016 et dorment encore dehors. Et c'est là alors même que le plan d'hébergement d'urgence est activé depuis plus de 2 mois et que les températures sont au plus bas. Donc, nous irons, vous irez au rassemblement le 5 janvier, donc demain, à 18h au 22 rue de l'Effort, Lyon 7, métro de Bourg.
Et ne confondez pas, parce que c'est pas, si vous tapez OFI dans Google, c'est pas cette adresse qui ressort, parce que c'est un des locaux, du coup c'est bien 22 rue de l'Effort.
Ça sache.
Et maintenant, je vais parler du projet Eurodac. Donc, c'est après, suite à un projet de réforme du règlement de Dublin qui sert à déterminer le pays responsable d'une demande d'asile, notamment dans le sens d'une rigidification de la règle du pays d'entrée dans l'espace des pays signataires. Comme pays responsable de l'examen d'une demande d'asile et d'une règle de renvoi vers les pays du transit voisin, s'ils sont considérés comme sûrs. Bref, là j'ai dit un truc super compliqué, c'est des choses qu'on explique depuis des années, mais c'est juste que le pays d'arrivée, c'est le pays où est renvoyée une personne migrante.
C'est ce qu'on appelle les lois Dublin.
Voilà, c'est beaucoup plus simple dit comme ça. Donc, après le projet de rétablir à partir du 15 mars 2017 les renvois vers la Grèce dans le cadre du règlement Dublin 3, alors que les conditions d'accueil sont toujours profondément dégradées dans ce pays, la Commission européenne projette la réforme du règlement Eurodac. Donc, le règlement Eurodac, c'est au départ le complément du règlement Dublin. Donc, ce qui est la prise des empreintes digitales à l'occasion d'une demande d'asile ou de franchissement irrégulier d'une frontière extérieure de l'Union européenne et leur enregistrement dans la base de données européenne Eurodac. Donc, c'est des empreintes digitales Eurodac qui sert à la détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande d'asile. Jusqu'ici, c'est bon. Vous m'avez su. Et le projet de réforme proposé par la Commission prévoit donc d'élargir de manière importante le contenu et l'objet d'Eurodac. Toujours plus de fichiers, on le sait. Donc, aux empreintes digitales s'ajouteront une photographie faciale et, sous réserve de coût, une copie des éventuels documents d'identité. Ce qui va être d'autant plus compliqué pour des personnes, elles vont être vraiment très 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 bien fichées. Le projet de réforme vise à, je cite, étendre son champ d'application afin de contribuer à lutter contre l'immigration irrégulière et faciliter les retours.
Parce que ce qu'on peut préciser quand même pourquoi ils veulent autre chose que juste les empreintes, c'est que les gens pour dire jusqu'où ils sont prêts pour éviter de tomber par les lois Dublin et du coup d'être fichés par Eurodac, c'est qu'il y a des gens qui se brûlent les, les doigts pour rendre leurs empreintes digitales illisibles et pas se faire dubliner, comme il est dit, c'est-à-dire pas se faire renvoyer dans le pays où tu as donné tes empreintes en premier, où en général, du coup, on t'a forcé à donner tes empreintes digitales. Du coup, il y a des gens voilà, qui se brûlent à l'acide ou sur les plaques chauffantes pour pas qu'ils soient retrouvés. Du coup, s'il y a photos et autres documents qui permettent de recouper leur identité, ça va rendre compliqué tout ce genre de choses.
Voilà. Et est envisagé également l'interconnexion avec d'autres fichiers à des fins répressives, donc dans le cadre de réformes à venir dans le domaine justice et affaires intérieures. Donc faciliter aussi donc le traitement judiciaire. Il sera également tenu compte en temps voulu des travaux en cours sur d'autres propositions concernant d'autres systèmes d'information, donc dans le domaine justice et affaires intérieures. Par exemple, le système d'entrée-sortie ou le système européen d'autorisation d'information concernant les voyages, en particulier pour ce qui est des dispositions relatives à l'accès des autorités répressives à l'ensemble des systèmes. Bref, on voit, vous voyez aussi le lien entre déplacement, terrorisme, judiciarisation, criminalisation des migrants, etc. Quoi. Ça fait Eurodac, ça mélange tout ça, avec son élargissement aussi. Donc le projet doit encore être adopté par le Conseil de l'Union européenne et par le Parlement européen. Mais la Commission se prévaut d'une large majorité d'opinions favorables des réunions techniques préparatoires. Donc voilà, malheureusement.
Que ça sache.
Et voilà, c'est fini pour les mauvaises nouvelles. pour aujourd'hui, en tout cas. On n'a qu'à finir par un petit agenda.
Allez,
alors...
quels sont les prochains rendez-vous de la semaine?
Alors, demain, en plus du rassemblement à 18h, à 19h, qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que c'est à 19h?
Eh bien, c'est le bistrot de la Caisse de solidarité. Et je cite, on se retrouve pour discuter et boire un coup à partir 19h à l'atelier des Canulars, 91 rue Montesquieu, Lyon 7e. Voilà. Et samedi, il y a un rassemblement antifasciste à 15h, place Raspail dans le 7e. Et je vais lire un bout de leur communiqué parce qu'ils relatent un peu les différentes choses fascistes qui sont mises en place à Lyon. Donc depuis plusieurs années, la présence de l'extrême droite à Lyon comme ailleurs s'est renforcée considérablement, n'échappant pas à la déferlante réactionnaire. Ces organisations se revendiquent des idées fascistes, propageant un discours raciste, antisémite, islamophobe, misogyne et homophobe, défendant une société sexiste et ségrégationniste. Donc ces organisations fascistes qui s'implantent toujours plus dans Lyon se sont fait connaître à plusieurs reprises par leurs actions brutales et violentes. Une des dernières en date était l'attaque menée à la librairie anarchiste La Plume Noire, également locale de la coordination des groupes anarchistes, occasionnant plusieurs blessés légers et de lourds dégâts matériels. Les organisations fascistes et racistes telles que le GUD, les jeunesses identitaires, les jeunesses nationalistes n'ont eu de cesse, donc ça c'est que des noms de groupes fascistes, du moins d'extrême droite, n'ont eu de cesse de tenter de s'implanter et de commettre des violences et des agressions envers des personnes racisées, les immigrés, des personnes de la communauté LGBT et des militants et militantes antifascistes. Le GUD a annoncé avec fierté l'ouverture de leur dernier bar, le Pavillon Noir. Il vient s'ajouter à la liste des 6 locaux fascistes lyonnais et autres boutiques et salons de tatouage où, bien sûr, donc, ils propagent leur discours. Le 4 février, le Front National souhaite lancer officiellement depuis Lyon sa campagne présidentielle. Cela non
Quelle
plus, voilà, nous ne pouvons l'accepter, le laisser passer, etc. Donc pour toutes ces raisons, cet appel a été à s'organiser en commun de manière indépendante des institutions a été organisé. Donc ce rassemblement le 7 janvier à 15h, place Raspail, et je pense qu'il s'en suivra d'autres durant les mois qui arriveront.
Il faut que ça ça sache.
Mais non, ça n'avait plus rien à voir avec il faut que ça sache.
Mais il faut que ça sache aussi.
C'est ça. Et il est 19h45, tout pile. Et on vous lâche avec 15 minutes d'avance. En laissant le temps à Idée Noire de prendre la suite à 20h parce qu'on les voit derrière les vitres. Du coup, on vous laissera avec 15 minutes de bande continue.
Et on se retrouve la semaine prochaine.
Merci de nous avoir écoutés.